RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, on l'a vu remporter une révolution en Géorgie, en 2003, devenir président réformateur de ce pays du Caucase. On l'a vu faire la guerre contre Vladimir Poutine, devenir gouverneur de la région d'Odessa en Ukraine, entrer en opposition frontale avec le président ukrainien Petro Poroshenko, se faire retirer sa citoyenneté, passer la frontière polono-ukrainienne en force, portée par ses militants. Mikhaïl Saakachvili est un animal politique, un chat à 9 vies qui est faire parler de lui, mais son aventure pourrait peut-être toucher à sa fin. Les accusations et les procès se multiplient en Ukraine et en Géorgie, des procès qu'il dénonce comme des persécutions politiques. Depuis le 26 janvier, il est assigné à résidence pour chaque nuit à partir de 22h. Il pourrait très prochainement être envoyé en prison, soit en Ukraine, soit en Géorgie. Sébastien Gobert est allé voir Mikhaïl Saakachvili à son domicile à Kiev pour prendre le pouls de ce réformateur radical haut en couleur et très controversé. C'est peut-être l'un de ses derniers entretiens d'homme libre. Grand reportage.
Passé le garde du corps à l'entrée du bâtiment, nous attendons qu'une assistante nous conduise au dernier étage de ce bel immeuble du centre de Kiev, à deux pas de Maïdan Nezalezhnosti, la place de l'indépendance, l'épicentre de la révolution de 2014. Et derrière la porte, nous découvrons un grand duplex décoré avec des colonnes égyptiennes et un grand piano à queue blanc. Mikhaïl Saakachvili nous attend, affalé sur un canapé.
Ça va ?
Ça va, c'est vous.
Mikhaïl Saakachvili est francophone. Il avait passé quelques mois à étudier à Strasbourg dans sa jeunesse.
Du thé ou du café pour nous ?
Un thé, si jamais.
Pour demander à son assistante d'apporter un thé, il passe en russe. Mikhaïl Saakachvili est polyglotte. En plus du géorgien, sa langue natale, il parle russe et français donc, et nous passons à l'anglais pour une conversation plus fluide. Et bien sûr, il parle aussi ukrainien. Il avait étudié à Kiev dans les années 80, à l'époque soviétique. Depuis 2014, Mikhaïl Saakachvili se veut en fait plus ukrainien que géorgien. Après avoir perdu la présidence de la Géorgie en 2013, il est parti en exil pour éviter des poursuites judiciaires, d'abord à New York, puis en Ukraine, où il s'est impliqué dans la politique nationale. Il s'est fait beaucoup d'ennemis avec le temps, notamment le président Petro Poroshenko. Il est en cours d'au moins 3 procès, dont un pour préparation de coup d'État. Et il risque la prison.
Ma ligne de défense, c'est que c'est un coup monté. Dans les audiences du tribunal, le procureur n'essaie même pas de faire semblant. Dans leur compte-rendu, ils reconnaissent presque qu'ils ont inventé leurs preuves.
Les accusations sont pourtant sérieuses. Le 5 décembre, le procureur général, Yuri Lutsenko, avait choisi de présenter ses preuves directement depuis l'hémicycle du Parlement. Il n'y allait pas par 4 chemins.
Notre enquête a prouvé que des personnes liées à l'ancien régime pro-russe collaborent étroitement avec le chef du mouvement des forces nouvelles, Mikhaïl Saakachvili, pour assurer le financement de ces manifestations, initier une rébellion et le renversement du gouvernement d'Ukraine. C'est une tentative de revanche de la part des forces pro-russes qui vise aussi à abandonner toutes les enquêtes contre l'ancien président Viktor Yanukovych et à lui restituer les possessions qu'il avait volées.
Pour Mikhaïl Saakachvili, qui s'est présenté depuis des années comme ennemi personnel de Vladimir Poutine, l'accusation a du mal à passer et il ne cherche même pas à se disculper.
Je n'ai pas besoin de prouver que je ne suis pas un agent des services secrets russes, le FSB, mais il faut être complètement fou pour y croire. Lutsenko a sorti ses accusations contre moi, agent du FSB, et personne n'y a cru. J'ai vu un sondage après. 7% des Ukrainiens y croient, 7%, malgré la gravité des accusations. C'est dramatiquement bas. Même les babouchkas, les grands-mères n'y croient pas.
De fait, beaucoup d'observateurs, ukrainiens et étrangers, remettent en question l'authenticité des preuves avancées par le procureur. Notamment l'identité des voix qui sont entendues sur les enregistrements des enquêteurs. Toujours est-il que l'horizon de Mikhaïl Saakachvili semble assez bouché. C'est soit la prison, soit l'extradition vers la Géorgie, où il a été condamné à 3 ans de prison par contumace. Le magazine américain Time vient tout juste de consacrer Mikhaïl Saakachvili comme un des 5 fugitifs géopolitiques les plus recherchés au monde. Lui ne goûte pas la plaisanterie.
Le gouvernement géorgien s'est donné pour mission de me mettre en prison, sur n'importe quel prétexte. Pendant un an, ils ont cherché des comptes en banque, des sociétés offshore et n'ont rien trouvé. Alors, ils se sont rabattus sur une affaire de grâce présidentielle et de frais de bouche de la présidence. Aucune de leurs accusations ne tient debout aux yeux de la société géorgienne.
Et s'il était effectivement extradé vers la Géorgie, ce ne serait pas lui, mais le gouvernement géorgien, qui en ferait les frais.
Le gouvernement est très impopulaire. Je dispose d'un large soutien populaire et de puissants appuis dans les forces de l'ordre et l'armée. Ce ne sera pas chose aisée pour eux. Je suis sûr que mes partisans renverseront le gouvernement pour me libérer.
Après avoir dit cela, Micha, de son surnom, reprend une gorgée de thé. Sa tasse est décorée à son effigie. L'ego et la confiance en soi de Mikhaïl Saakachvili sont de notoriété publique. Peut-être sont-ils justifiés. Pourtant, il est difficile de faire la part des choses. En Géorgie, son parti n'a pas remporté les élections législatives d'octobre 2017. Et il y est très critiqué pour le style autoritaire de sa présidence, notamment des pressions contre des médias ou des répressions de manifestations.
Oui, et alors ? C'est le seul pays de l'espace post-soviétique qui a vécu une transition du pouvoir pacifique et qui s'est réformé avec succès. On ne peut pas transformer un État dysfonctionnel en une démocratie libérale en 8 ans. Je ne prétends pas avoir réussi cela, mais j'ai fait un véritable État viable, une success story, un point c'est tout. Et c'est pour ça que je suis en Ukraine, parce que c'est un cas comparable.
Il balaye de toutes les manières les menaces qui pèsent sur lui d'un revers de la main.
Fin janvier, j'ai appris que les Ukrainiens ont demandé à la Pologne s'ils voulaient me reprendre.
En d'autres termes, Mikhaïl Saakachvili est persuadé qu'à la fois les Ukrainiens mais aussi les Géorgiens cherchent à se débarrasser de lui et à l'envoyer dans un autre pays. Il faut dire que Micha dérange les régimes en place par son style, par ses agitations populaires et par son dynamisme révolutionnaire. À son arrivée en 2014, il était très populaire. Les Ukrainiens trouvaient qu'il posait les bonnes questions et identifiait les problèmes clairement, notamment la corruption systémique. Mais il n'a pas réussi à y apporter des solutions. Son bilan à Odessa est très maigre. Et ce qui reste dans les annales de l'opinion publique, ce sont des empoignades et des lancers de verre d'eau avec le ministre de l'Intérieur, ou encore son passage rocambolesque de la frontière ukrainienne. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, son action politique est souvent décriée comme un cirque.
Bien sûr que je n'aime pas ça. Vous vous imaginez à 7h du matin entendre bang, bang, bang sur la porte? C'est vraiment un choc, on se sent agressé.
Ce bang, 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 c'était le matin du 5 décembre. Une unité de police tente de l'arrêter à son domicile à Kiev. Il se réfugie alors sur le toit de l'immeuble. Les spectateurs ont cru qu'il menaçait de sauter.
Si je suis allé sur le toit, ce n'était pas par sensationnalisme. Ils avaient brouillé mes communications et je cherchais du réseau. Ça n'a marché que quand j'étais au bord du toit. Et le plus rigolo, c'est que mon message n'est pas arrivé à mes contacts ukrainiens, mais d'abord à un ami en Géorgie qui a ensuite averti tout le monde à Kiev.
Après quelques bousculades, la police réussit à le faire descendre du toit et l'embarque dans un fourgon. Le véhicule ne fait même pas 200 mètres qu'il est stoppé par une foule de partisans du Géorgien. Après plusieurs heures de face-à-face tendue, ils parviennent à le libérer. Mikhaïl Saakachvili va ensuite se fendre d'un discours endiablé, avec une main encore menottée, et parcourir librement le centre de Kiev, porté par ce qu'il appelle le peuple. La police ne le touchera plus pendant quelques jours. Ce sont des scènes dignes de films d'aventure, qui sont une marque de fabrique de Mikhaïl Saakachvili. Et on apprend que ça remonte à très longtemps.
C'était la seconde fois que j'essayais de m'échapper par le toit. La première fois, c'était en 1986, aussi à Kiev, pendant mes études. Le KGB voulait m'arrêter à cause d'une petite bagarre. Je suis monté sur le toit d'un restaurant et j'ai disparu pendant 4 jours. Ça a suffi pour négocier avec quelqu'un de haut placé et éviter la Sibérie. Ils m'ont quand même mis en maison d'arrêt pendant 1 jour et demi. Et vous savez, c'était la même prison que là où ils m'ont mis en décembre dernier. Là-bas, j'ai trouvé un garde qui travaillait déjà sur place en 1986. C'était la même prison et le même garde. C'est juste qu'avant, c'était le KGB soviétique et maintenant, c'est le SBU ukrainien. Le style n'a pas changé. Avant, on m'accusait d'être un espion américain. Maintenant, je suis un espion russe. C'est le même combat qui continue.
Micha a beau se référer à une continuité de son action politique en faveur des libertés et de la démocratie, contre l'oppression, il n'empêche que ces coups d'éclat choquent une partie de l'opinion publique. L'Ukraine a perdu la Crimée en 2014 et est en guerre dans l'est du pays. Plus de 10 000 personnes y ont perdu la vie, le pays compte plus de 1 million de déplacés internes et souffre aussi d'une grave crise économique. Beaucoup d'Ukrainiens s'offusquent donc de ces coups très médiatisés qui ne changent en rien leur situation, d'autant que ces manifestations, spontanées ou organisées, cause aussi des embouteillages monstres à Kiev. C'est en partie ce qui explique que Mikhaïl Saakachvili n'a qu'une assise populaire très limitée, même s'il s'en défend.
Non, ce n'est pas si bas que ça. Les derniers sondages donnent 6-7% à notre parti, donc nous pourrions entrer au Parlement. Pour un parti qui n'existait pas sur la carte politique il y a quelques mois, ce n'est pas mal. aucun parti ne recueille plus de 12% des intentions de vote.
Pour lui, c'est un signe clair que son action porte ses fruits et que Petro Poroshenko perd du terrain.
Je pense qu'il est très faible. Il essaie de tout contrôler, mais ça ne le rend pas fort. Il essaie de contrôler les médias. Mais dès qu'il y a une petite crise, il lui échappe. Il y a un an, personne ne voulait parler de moi. Je n'existais pas. Et dès que j'ai franchi la frontière, les télévisions ont parlé de moi. Qu'ils le veuillent ou non, je suis à l'écran.
Poroshenko, Poroshenko, Poroshenko. Autrefois son ancien camarade d'université et son ami proche, il est devenu son ennemi juré. Il l'accuse de tous les maux, de conduire des réformes en trompe-l'œil et d'entretenir un cycle de corruption endémique. Entre les deux hommes, c'est un dialogue de sourds, car de son côté, Petro Poroshenko se dépeint exactement comme un réformateur éclairé et intègre, comme ici lors du récent Forum économique mondial à Davos.
C'est moi qui organise la lutte contre la corruption en Ukraine, parce que c'est une priorité de ma politique. C'est moi qui ai créé les institutions indépendantes de lutte contre la corruption. Le Bureau contre la corruption, le procureur spécial anticorruption. Nous avons accompli une réforme complète du système judiciaire, avec une refonte de la Cour suprême et des tribunaux d'Ukraine.
Cette déclaration a été très critiquée en Ukraine. De nombreux observateurs estiment que le président bloque au contraire les organes anticorruption et a placé le système judiciaire sous sa coupe. Dans une interview au journal Ukrainska Pravda, l'ambassadrice de France en Ukraine a même révélé que les dernières tentatives d'étouffer la lutte anticorruption auraient pu remettre en cause la libéralisation du régime de visa Schengen pour les citoyens ukrainiens. Tout ceci donne du grain à moudre à Mikhail Saakashvili, qui fait de Petro Poroshenko le problème numéro un en Ukraine.
Depuis son indépendance, l'Ukraine a été gouvernée par un conseil d'administration d'oligarques qui se désignent des directeurs, le président, le premier ministre. Ces oligarques se présentent comme hommes d'affaires, mais par nature, ils sont anti-business. Ce sont des requins qui dévorent les petits poissons de l'aquarium. Mais entre eux, il y a toujours eu un pacte. Ils se tolèrent et ne s'attaquent pas. C'est comme ça qu'ils ont pu vivre ensemble. Poroshenko est le premier qui a décidé de devenir directeur et président. Il veut être le premier des oligarques.
Sur la table, une boîte de chocolat. Et Mikhail Saakashvili insiste, ce sont des chocolats suisses et pas des Rochen, la confiserie de Petro Poroshenko. Le président est critiqué pour ne pas avoir vendu les sociétés de son empire économique depuis son élection. Il figurait aussi en bonne place dans le scandale des Panama Papers. Et il vient d'être très critiqué pour avoir passé, incognito, 6 jours de vacances aux Maldives. Il y aurait dépensé au moins 400 000 euros.
D'un certain côté, je ne l'envie pas à Poroshenko. L'Ukraine est un pays bien plus chaotique que la Russie. Les Ukrainiens ont toujours malmené ou renversé leur président. Même les hetmans, les chefs cosaques. Les Ukrainiens ne recherchent pas un leader fort.
Les révolutions, les Ukrainiens savent les faire, tout comme Mikhail Saakashvili. Mais ensuite, quel programme pour le pays ?
L'Ukraine a besoin d'un grand nettoyage. C'est un État dysfonctionnel, le plus pauvre d'Europe en termes de PIB par habitant. Pourquoi ? Parce que 7 oligarques ont pris toute la richesse du pays en otage et ne s'en servent que pour s'enrichir. Cela étant dit, je ne crois pas dans la répression de masse. J'ai aussi compris cela en Géorgie. Un oligarque en prison utiliserait ses médias, les députés qu'il contrôle. Son argent est encore plus dangereux depuis la prison. En revanche, s'il est en liberté, mais sans son argent, sans ses médias, c'est acceptable.
Quant au reste d'un programme de transformation du pays, il reste flou. Un coup de téléphone. Mikhail Saakashvili a 3 téléphones. Il est connecté en permanence et toujours entouré de ses sympathisants et collaborateurs. Mais paradoxalement, il est très esseulé comparé à avant. L'équipe qui avait assuré le succès des réformes en Géorgie s'est débandée. Le maître à penser de son programme, Kaka Bendoukidze, est mort dans une chambre d'hôtel à Londres en 2014. En Ukraine, beaucoup de politiques et de représentants de la société civile se sont désolidarisés de lui, pour de nombreuses raisons. Certains cherchent même à l'instrumentaliser. Yulia Tymoshenko, une des figures permanentes de la vie politique depuis les années 90, le soutient ainsi dans certains moments sensibles qui peuvent lui rapporter à elle des dividendes politiques.
Soutenir Saakashvili n'est pas mon but ultime. Il est ouvertement malmené par le président, qui se considère comme le nouveau tsar de l'Ukraine. Mais ce qui arrive à Saakashvili, ce n'est qu'une goutte d'eau dans les dérives du pouvoir actuel. Moi et mon parti sommes déterminés à lutter contre ces abus et à concrétiser les promesses de la révolution de 2014.
Yulia Tymoshenko est aujourd'hui une des candidates favorites de la prochaine élection présidentielle. Opposante, certes, mais opposante discrète face au vindicatif Mikhail Saakashvili. Lui ne s'offusque pas de cette stratégie, bien au contraire.
Ils pensent tous de cette manière. Saakachvili est le plus fou de nous tous. Donc, attendons qu'il soit brûlé sur la place publique et nous pouvons retirer les bénéfices. Ça me va. Si c'est mon rôle ici, je m'y tiendrai. Certains politiciens me le disent très ouvertement, vous savez.
On remarque tout de même que ce discours est nouveau dans la bouche de Micha. Peut-être un signe qu'il comprend que sa marge de manœuvre se réduit comme peau de chagrin.
Dans tous les cas, je ne peux pas être le chef de file. Je recherche désespérément ce chef de file. Je peux agir en faiseur de roi, mais à la condition que ce soit quelqu'un de nouveau. La classe politique est très impopulaire. 70% des Ukrainiens rêvent d'une nouvelle personnalité. Nous avons besoin de trouver notre Macron, mais un Macron avec une essence. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui présente bien comme Macron, mais sans contenu. Il nous faut une vraie essence.
Pour le Géorgien, le succès de l'Ukraine est une nécessité historique. Lui qui a combattu Vladimir Poutine ne se fait aucune illusion sur ses intentions.
Écoutez, il veut anéantir l'Ukraine. Il me l'a dit à un sommet de l'OTAN en 2009. L'Ukraine n'existe pas en tant que pays, c'est un territoire. Donc ce que nous devons faire avec les Occidentaux, c'est faire de l'Ukraine une success story. Et rapidement, pour que Poutine ne puisse plus attaquer. Sinon, l'Ukraine peut se désagréger. La balkanisation du pays est toujours possible. D'un autre côté, si l'Ukraine réussit dans ses réformes, alors c'est la fin de Poutine. C'est à double tranchant.
Et la question de la survie de l'Ukraine vient autant de l'extérieur que de l'intérieur.
Un autre problème ici, c'est que le ministre de l'Intérieur, Arsène Avakov, instrumentalise des groupes paramilitaires. Nous voyons des armées privées défiler dans le centre de Kiev. C'est un jeu dangereux, car ces groupes peuvent échapper au contrôle. Et ils peuvent occuper le centre de Kiev sans problème. Les nationalistes ukrainiens le font. Alors il y aura des groupes pro-russes qui occuperont Odessa, Kharkiv, et le pays éclate en morceaux. C'est un scénario catastrophe.
Pourtant, certains de ces nationalistes le soutiennent. Ils étaient parmi ceux qui l'ont tiré du fourgon de police.
Bien sûr, il y a eu des extrémistes qui nous ont soutenus, et alors ? S'ils veulent aider, ils agissent en électron libre, on ne peut pas les contrôler.
C'est là encore une contradiction de Mikhail Saakashvili. Visiblement, la fin justifie les moyens. Et le but ultime, c'est que l'Ukraine réussisse sa transformation en un État fonctionnel.
J'ai fait un film sur le futur de l'Ukraine, que je vais présenter au cinéma. Sur ce que le pays peut faire dans l'économie, la politique, la justice. Le problème de l'Ukraine, c'est un complexe très fort de perdants. Toute l'histoire du pays se résume par « on a essayé, mais ça n'a pas marché ». Les deux révolutions en sont la preuve.
Nous parlons depuis déjà près de 2 heures. L'énergie du personnage ne faiblit pas. On peut se demander comment il arrive à accepter cet enfermement chaque nuit.
C'est horrible. Je suis une véritable créature de la nuit. J'invite des gens, je vais commencer à faire des plateaux TV depuis mon salon, je vais travailler à diffuser un film sur l'Ukraine. Je n'organise pas vraiment des fêtes ici. Parfois, je fais monter des plats typiquement géorgiens pour manger avec des amis, mais c'est tout.
Mikhail Saakashvili ne joue pas du grand piano. Il ne cuisine que de rares omelettes dans sa grande cuisine. Sur un plateau d'échecs, il manque une des dames, preuve qu'il ne joue pas à ce jeu. Ce sont les réseaux sociaux qui occupent l'essentiel de ses soirées. Comme il le répète souvent, la seule chose qu'il craint dans la prison, c'est de ne plus avoir accès à son compte Facebook et à ses 976 000 followers. Alors pourquoi s'acharne-t-il, alors qu'il pourrait fuir le pays, trouver refuge auprès de sa famille aux Pays-Bas ? Il a la réponse toute trouvée.
Les gens me demandent toujours ce que je fais encore là. Il y a 2 raisons simples. Premièrement, la Géorgie ne peut exister si l'Ukraine ne réussit pas. J'ai vu sous l'ancien régime pro-russe comment toute la région a disparu comme zone géopolitique. Et puis deuxièmement, si je peux contribuer à transformer un autre grand pays d'Europe, c'est aussi une chance historique pour moi. On dit qu'en politique, on se construit soit une fortune, soit un nom. Certains veulent faire les deux. Moi, je ne veux que bâtir un nom. Au moins, je ne gagne pas d'argent.
Le 4 février, Mikhail Saakashvili conduisait une énième manifestation dans le centre de Kiev, rassemblant plusieurs milliers de personnes. Mais l'humeur n'était déjà plus à la révolution. La foule sait que le sort du Géorgien est suspendu à de multiples décisions de justice et que son aventure peut s'interrompre à tout instant. Pour autant, difficile de croire que s'il était emprisonné ou extradé, il serait réduit au silence. Mikhail Saakashvili est de ceux qui reviennent toujours, même si on ne l'attend plus. Mikhail Saakashvili, dernière confession avant la prison. Un grand reportage de Sébastien Gobert à la réalisation Pierre Chaffanjon.